Quatrième partie, le bout de guerre. Le proscrit.
Pendant plus de 3 années, Robert d'Artois, comme un grand fauve blessé, rôda aux frontières du royaume. Parent de tous les rois et princes d'Europe, neveu du duc de Bretagne, oncle du roi de Navarre, frère de la comtesse de Namur, beau-frère du comte de Hainaut et du prince de Tarente, cousin du roi de Naples, du roi de Hongrie et de bien d'autres, il était à 45 ans un voyageur solitaire devant lequel les portes de tous les châteaux se fermaient. Il avait de l'argent à suffisance, grâce aux lettres de change des banquiers siennois, mais jamais un écuyer ne se présentait à l'auberge où il était descendu pour le prier à dîner chez le seigneur du lieu. Quelques tournois se donnaient-ils dans les parages? On se demandait comment éviter d'y convier Robert d'Artois, le banni, le faussaire, que naguère on eût installé à la place d'honneur. Et un ordre lui était délivré avec une déférence froide par le capitaine de ville, Monseigneur le comte suzerain le priait de porter plus loin ses pas. Car Monseigneur le comte suzerain, ou le duc, ou le margrave, ne voulait pas se brouiller avec le roi de France, et ne se sentait tenu à aucun égard envers un homme si déshonoré qu'il n'avait plus ni blason ni bannière. Et Robert repartait à l'aventure, escorté de son seul valet Gilet de Nel, un assez mauvais sujet qui, sans effort, eût mérité de se balancer aux fourches d'un gibet, mais qui vouait à son maître, comme l'ormait jadis, une fidélité sans limite. Robert lui donnait en compensation cette satisfaction plus précieuse que le gros gage, l'intimité avec un grand seigneur dans l'adversité. Combien de soirées, durant cette errance, ne passèrent-ils pas à jouer au dé, attablés à l'angle d'une mauvaise taverne? Et quand le besoin de gueuser les démangeait un peu, ils entraient ensemble en quelqu'un de ces Bordeaux qui étaient nombreux en Flandre et offraient bon choix de lourdes ribaudes. C'était en de tels lieux, de la bouche de marchands qui revenaient des foires, ou de maquerelles qui avaient fait parler les voyageurs, que Robert apprenait les nouvelles de France. À l'été 1332, Philippe VI avait marié son fils Jean, duc de Normandie, à la fille de Bohême, bonne de Luxembourg. « Voilà donc pourquoi Jean de Luxembourg m'a fait expulser de chez son parent de Brabant !» se disait Robert. « Voilà de quel prix on a payé ses services !» Les fêtes données pour ses noces à Melun avaient, à ce qu'on racontait, dépassé en splendeur tout autre dans le passé. Et Philippe VI avait profité de ce grand rassemblement des princes et de noblesse pour faire coudre solennellement la croix sur son manteau royal. Car la croisade, cette fois, était décidée. Pierre de la Palude, patriarche de Jérusalem, l'avait prêché à Melun, tirant les larmes aux 6 000 invités de la noce, dont 1 800 chevaliers d'Allemagne. L'évêque Pierre Roger la prêchait à Rouen, dont il venait de recevoir le diocèse après ceux d'Arras et de Sens. Le passage général était décidé pour le printemps 1334. On hâtait la construction d'une grande flotte dans les ports de Provence, à Marseille, à Aigues-Morte, et déjà l'évêque Marigny voguait, chargé d'aller porter défi au Soudan d'Égypte. Mais si les rois de Bohême, de Navarre, de Majorque, d'Aragon, qui vivaient à la table de Philippe, si les ducs, comtes et grands barons, ainsi qu'une certaine chevalerie et prise d'aventure, avaient suivi avec enthousiasme l'exemple du roi de France, la petite noblesse de terroir montrait elle moins d'empressement à saisir les croix de drap rouge tendues par les prédicateurs et à s'embarquer pour les sables d'Égypte. Le roi d'Angleterre, pour sa part, pressait l'instruction militaire de son peuple, mais ne donnait aucune réponse touchant les projets vers la Terre Sainte. Et le vieux pape Jean XXII, d'ailleurs en grave querelle avec l'Université de Paris et son recteur Buridan sur les problèmes de la vision béatifique, faisait la sourde oreille. Il n'avait accordé à la croisade qu'une bénédiction réticente et il rechignait au partage des frais. En revanche, les marchands d'épices, d'encens, de soieries, de reliques, les fabricants d'armures et les constructeurs de bateaux poussaient beaucoup à l'entreprise. Philippe VI avait déjà organisé la régence pour la durée de son absence, et fait jurer aux pères, aux barons, aux évêques, s'ils venaient à trépasser outre-mer, qu'ils obéiraient en tout à son fils Jean et lui remettraient sans discussion la couronne. « C'est donc que Philippe n'est point tellement assuré de sa légitimité, » pensait Robert d'Artois, « s'il engage à reconnaître son fils dès à présent. » Accoudé devant un pot de bière, Robert n'osait pas dire à ses informateurs de rencontre qu'il connaissait tous les grands personnages dont il lui parlait. Il n'osait pas dire qu'il avait jouté contre le roi de Bohême, procuré la mitre à Pierre Roger, qu'il avait fait sauter le roi d'Angleterre sur ses genoux et dîner à la table du pape. Mais il notait tout pour en faire un jour son profit. La haine le soutenait. Aussi longtemps qu'en lui resterait la vie, aussi longtemps resterait la haine. En quelque endroit qu'il prit auberge, c'était la haine qui l'éveillait avec le premier rayon du jour, filtrant entre les volets d'une chambre inconnue. La haine était le sel de ses repas, le ciel de sa route.